Aujourd'hui, nous célébrons l'Épiphanie. Pour certains, l'Épiphanie, c'est la galette des rois. Nous avons mangé des dindes au marron, peut-être, au moment de Noël. Mais l'Épiphanie, c'est quand même autre chose. Épiphania, en grec, ça signifie la manifestation. Et ce soir, au Vêpres, avec les frères, eh bien, au moment du Magnificat, nous allons chanter une très belle antienne. Et cette antienne va nous rappeler trois événements, trois miracles. L'arrivée des mages qui sont venus adorer l'enfant Jésus dans la crèche, le baptême de Jésus et les noces de Cana. Car dans la tradition orientale, l'Épiphanie rassemble ces trois événements, ces trois fêtes, car ce sont trois manifestations de Dieu aux hommes. Aujourd'hui, Dieu se manifeste à travers Jésus aux nations, à travers les mages. Et puis dimanche prochain, nous allons célébrer le baptême de Jésus. Et Jésus va descendre dans les eaux du Jourdain, il va être baptisé par Jean-Baptiste, et il va y avoir une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Le ciel va s'ouvrir, nous allons entendre la voix du Père qui dira « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », et un oiseau comme une colombe, qui signifie bien sûr l'Esprit-Saint. Et Jésus va se manifester au début de sa vie publique aux hommes qui seront là au bord du Jourdain. Et dimanche, dans 15 jours, c'est pour ça qu'il y a toute une cohérence dans la liturgie et dans les lectures. C'est important de pouvoir venir dimanche après dimanche pour se nourrir de la parole de Dieu. Dans 15 jours, eh bien, nous entendrons l'évangile des noces de Cana. C'est Jésus qui va faire son premier miracle à Cana. Il va changer l'eau en vin. Et vous regarderez, à la fin de l'évangile, on entendra cette phrase « Et Jésus manifesta ainsi sa gloire ». Il manifesta sa gloire. C'est une autre épiphanie. Donc l'épiphanie, cette fête que nous célébrons aujourd'hui, c'est la manifestation de Dieu aux hommes. Alors aujourd'hui, il le fait à travers les mages, les trois rois mages. Les trois rois mages, en fait, on ne nous en parle pas du tout dans l'évangile. On ne nous dit pas qu'ils étaient trois et on ne nous dit pas non plus qu'ils étaient des rois. C'est vrai que c'est plutôt au Moyen-Âge, au 14e, 15e siècle, il y avait un homme, Jacques de Voragine, qui a écrit, qui a rassemblé des vies de saints dans la légende dorée et parfois il a un peu enjolivé. Il a donné des noms, des prénoms aux mages. Il les a appelés Melchior, Gaspard et Balthazar. On a dit qu'ils étaient trois parce qu'il y avait trois cadeaux, on a dit qu'ils étaient rois. En fait, on n'en sait rien du tout. Ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui, dans le chapitre 2 de saint Matthieu, c'est que c'était des mages qui venaient d'Orient. Et ils se sont mis en route après avoir vu une étoile se lever dans le ciel. Alors, cette histoire d'étoile encore, qu'est-ce que c'est? Parce que certaines personnes qui sont non-croyantes vont nous dire « Vous croyez comme ça en des étoiles qui apparaissent et qui disparaissent ?» En fait, il y a eu des études qui ont été faites, et notamment au XVIIe siècle, un savant allemand qui s'appelait Johannes Kepler, qui a fait des études, il a étudié les astres, et il s'est rendu compte que dans les années moins 4 à moins 6 avant Jésus-Christ, il y a eu dans le ciel de Palestine une conjonction de planètes, Saturne et Jupiter, qui, l'une est passée devant l'autre, et dans le ciel, cela a provoqué une lumière beaucoup plus importante que d'habitude. Et c'est sans doute cette conjonction de Saturne et de Jupiter que les mages ont vue et qui leur a permis de se mettre en route. Alors pourquoi Saturne et Jupiter? Jupiter, c'est la planète royale dans la mentalité juive. Et Saturne, c'est la planète des Juifs. Alors si les deux, comme ça, se superposent dans le ciel, eh bien, ils se sont dit, Saturne, les Juifs, Jupiter, les rois, rois des Juifs. Ils se sont mis en route vers Jérusalem, la capitale du roi des Juifs. C'est une explication possible. En tout cas, rappelons-nous cette phrase de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle qui dit « La grâce ne supprime pas la nature ». Donc, Dieu ne fait pas des choses extraordinaires, merveilleuses dans notre vie pour épater la galerie, des choses qui seraient irréalisables. Mais à travers les événements de notre existence, il nous parle à nous de reconnaître les signes que Dieu nous donne dans notre existence. Les mages ont reçu ce signe de l'étoile, car ils regardaient le ciel régulièrement. Et parmi toutes ces étoiles, il y en a une qui brillait plus que les autres. Les bergers, eux, quel était le signe qu'ils ont eu? Nous voyons là dans la crèche, en regardant la crèche, le signe qu'ils ont eu, c'est un enfant dans une mangeoire. Car eux, ils savaient parfaitement ce qu'était une mangeoire. Mais quelque chose un peu d'inhabituel, c'est qu'il y avait un enfant dans une mangeoire. Normalement, dans une mangeoire, il n'y a pas un enfant. Le soir de la résurrection, quelques jours après la résurrection, quand les disciples vont aller là-bas pêcher dans le lac de Galilée, eh bien, le signe pour des pêcheurs, ce sera des poissons. Ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Et le matin, Jésus leur dit « Jetez les filets ». Ils vont jeter les filets et ils vont prendre une grande quantité de poissons. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous fait des signes, mais des signes que chacun nous puissions comprendre. Il va donner le signe de l'étoile aux mages, et il ne va pas donner le signe de l'étoile aux bergers. Il va donner le signe des poissons aux pêcheurs, il ne va pas donner le signe des poissons aux mages. Dieu nous fait toujours des signes dans notre existence. À nous de regarder les signes que Dieu nous fait. Donc les mages se sont mis en route et ils avancent jusqu'à Jérusalem. Et à Jérusalem, eh bien l'étoile disparaît. C'est étonnant, ils ne la voient plus. D'ailleurs, le savant Kepler a remarqué que cette conjonction de planètes a eu lieu 2 à 3 fois à quelques mois d'intervalle, ce qui pourrait expliquer le fait qu'en arrivant à Jérusalem, l'étoile a disparu. En tout cas, que font-ils ? Ils vont rencontrer le roi Hérode et ils vont l'interroger. Alors Hérode cherche, il réfléchit. Face à une difficulté, les mages ne se découragent pas, ils persévèrent. Et nous, dans notre existence, est-ce que ce n'est pas parfois un peu la même chose ? Nous essayons de faire telle ou telle chose, et puis parfois nous nous décourageons. Eh bien, nous sommes invités à persévérer, à ne pas nous décourager. La vie chrétienne, c'est cela. On n'arrivera jamais à comprendre totalement qui est Dieu. Je vous l'ai souvent dit, car si on arrivait à comprendre totalement qui est Dieu, ben nous serions supérieurs à lui, puisque notre intelligence arriverait à le comprendre totalement. Donc la vie chrétienne, c'est cela, c'est un chemin qui ne finira jamais. Le chemin de la vie chrétienne finira quelque part au moment de notre mort, quand nous ferons ce passage dans la vie éternelle et que nous pourrons contempler Dieu face à face tel qu'il est. Alors nous sommes invités, jour après jour, à ne pas nous décourager. C'est le début de l'année, peut-être que nous pouvons prendre telle ou telle résolution. Eh bien, prenons aussi des résolutions spirituelles. Peut-être une résolution de prier davantage, de rendre aussi à l'Église, davantage être attentif aux autres, en famille, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ne nous décourageons pas. Quand parfois nous avons l'impression que nous n'arrivons pas à faire quelque chose, eh bien, allez, un peu de courage et nous repartons comme les mages qui ne se sont pas découragés. Vous vous rendez compte ? S'ils étaient arrivés à Jérusalem, que l'étoile avait disparu et qu'ils s'étaient dit « Bah tant pis, hein, l'étoile n'est plus là, on rentre chez nous », ils n'auraient pas rencontré l'enfant Jésus. Ils n'auraient pas fait cette rencontre avec le Fils de Dieu. Alors nous demandons cette grâce de la persévérance. Et quand on persévère, Dieu est là à nos côtés et il nous donne au centuple. Ils sortent de chez Hérode. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait à nouveau, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Et là, avec vous, j'aimerais regarder les 5 verbes que l'évangéliste nous donne pour décrire l'attitude des mages. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Première chose, ils se réjouissent. Lorsque nous persévérons, lorsque nous allons jusqu'au bout des choses, eh bien, nous sommes dans la joie, car nous avons dépassé des difficultés. Nous ne sommes pas faits pour nous arrêter à telle ou telle difficulté, nous sommes faits pour avancer dans notre existence. Alors, nous nous réjouissons, et les mages se sont réjouis parce qu'ils ont vu à nouveau l'étoile. Ils se réjouissent, et lorsque nous savons que nous allons rencontrer Dieu, cela doit nous réjouir. Le dimanche, quand nous allons à l'église, j'espère que cela nous réjouit, car nous allons rencontrer le Seigneur qui va illuminer toute notre semaine. Premier verbe, ils se réjouissent. Deuxième verbe, ils entrèrent dans la maison. Ils entrèrent dans la maison. Ils auraient pu rester à l'extérieur de la maison. Ils entrent dans la maison. Et vous savez, les mages ne sont sans doute pas arrivés à la crèche dans l'étable, puisque c'était sans doute quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années après, un ou deux ans après, hein, qu'ils sont allés adorer Jésus. En tout cas, ils entrent dans la maison, et la maison, pour tous les commentateurs bibliques, c'est quoi ? C'est aussi l'Église. Ils entrèrent dans la maison. La maison, c'est aussi notre cœur. Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Est-ce que nous, quand nous voyons une église, quand nous nous promenons là, le dimanche, le week-end, dans nos belles campagnes charentaises, et que nous voyons une église, est-ce que nous poussons aussi la porte de l'église pour dire un petit bonjour au Seigneur ? Est-ce que chaque jour aussi nous ouvrons la porte de la maison de notre cœur ? Car Dieu est à l'intérieur de notre cœur, on pourrait rester à l'extérieur, mais il s'agit d'entrer. Pourquoi ? Troisième verbe. Ils entrèrent, conséquence, ils virent l'enfant Jésus avec Marie sa mère. S'ils étaient restés à l'extérieur, ils ne l'auraient pas vu, ils ne l'auraient pas rencontré. Et nous savons que l'Église est le lieu où nous pouvons rencontrer le Seigneur, comme notre cœur est le lieu où nous pouvons rencontrer le Seigneur. Alors, ils se réjouissent, ils entrent dans la maison, ils voient l'enfant avec Marie sa mère. Et quatrième verbe, il tombe à ses pieds et se prosternèrent devant lui. C'est un geste d'adoration. Vous savez, nous sommes dans une société malheureusement déchristianisée, et il peut y avoir des personnes, mais chacun est accueilli dans la maison de Dieu, qui rentrent dans l'église et qui visitent simplement une église d'un point de vue architectural, qui ne se rendent pas compte finalement que dans le cœur de l'église, il y a cette petite lampe, ce tabernacle, dans lequel il y a la présence réelle. Les mages entrent dans la maison, ils voient l'enfant et ils reconnaissent en lui le Fils éternel du Père. Lorsque nous allons communier dans quelques instants, nous allons recevoir l'hostie. Nous allons recevoir un morceau de pain. Enfin, extérieurement, c'est un morceau de pain, mais nous croyons que ce n'est plus du pain. Et nous croyons que cette hostie, c'est Jésus lui-même qui est présent et qui veut venir dans notre cœur pour habiter à l'intérieur de notre cœur. Alors aujourd'hui, nous sommes aussi invités à nous prosterner devant la présence de Dieu dans nos vies, à reconnaître sa présence. La fête de Noël, c'est le mystère de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il est là présent à chaque instant dans notre existence. Et dernier verbe, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils ouvrirent leur cœur, ils se prosternent, ils ouvrirent leur cœur et ils offrent leur cadeau, ou plutôt, ils s'offrent eux-mêmes à travers leur cadeau. Et vous savez finalement que l'or, l'encens et la myrrhe, ça signifie quoi ? L'or signifie que Jésus est roi. Ils reconnaissent en lui cette royauté. Ils offrent de l'encens, car l'encens symbolise la divinité. Ils reconnaissent en Jésus sa divinité. C'est le Fils de Dieu. Et ils offrent de la myrrhe. Pourquoi ? Car le matin de la résurrection, Marie-Madeleine et les femmes sont allées au tombeau avec des parfums pour embaumer le corps de Jésus. Et en offrant la myrrhe, ils annoncent déjà la mort et la résurrection de Jésus. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Cette phrase aussi est importante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a rencontré Jésus, eh bien on rentre chez soi différemment. On ne peut pas faire la rencontre du Seigneur et être le même après. C'est ce qui s'est aussi passé pour les mages. En tout cas, rendons grâce à Dieu, car il se manifeste à nous. C'est cela le mystère de l'épiphanie. Et il veut se manifester à tous les hommes, à travers les mages. Peut-être qu'ils étaient trois, en tout cas, on dit qu'il y en a un qui venait d'Asie, l'autre de l'Afrique, l'autre de l'Europe, c'était les trois continents connus à l'époque. C'est peut-être pour ça aussi qu'on disait qu'ils étaient trois. En tout cas, aujourd'hui, Jésus veut se manifester à vous. Il veut rentrer, il veut il est déjà présent dans votre cœur, mais il veut que nous prenions toujours davantage conscience de sa présence dans nos vies, alors, eh bien, soyons attentifs aussi à sa présence, laissons-le manifester son amour à chacun de nous. Amen.